Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the Internet at CIUT.FM or live from our studio. Popori Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target, Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m., in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pori@simpatico.ca.
Écoutez la planète chanter.
Cette chanson, les feuilles mortes, me rappellent à ton souvenir.
Adrabe narcosa, ding it on, ding it on.
Écoutez la planète chanter.
Bonjour, c'est le Père Noël. Appelez vite le 0892 68 40 24 et parlez au Père Noël. Jouez aussi au jeu des lutins farceurs pour gagner de magnifiques cadeaux. 0892 68 40 24. À tout de suite, les enfants.
Vous écoutez Popourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express Toronto et Radio France Internationale.
Et 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins, place aux cadeaux de Noël à l'approche des fêtes de fin d'année. Pendant longtemps, on disait les étrennes d'ailleurs, preuve que le cadeau n'était pas forcément lié à la naissance de Jésus, mais plutôt à la fin de l'année. Martine Perrault, vous racontez tout ça dans un livre qui finalement résume la saga commerciale des cadeaux de Noël. Dans votre livre, Le cadeau de Noël, histoire d'une invention, vous êtes sociologue et ethnologue. Et Franck Mattet, vous êtes directeur des ventes à la Grande Récré. Après, je ne le dis plus, c'est promis, une chaîne de magasins qui résume bien l'univers de Noël. Martine Perrault, lorsqu'on demande aux Français ce qu'ils préféreraient recevoir pour Noël, et ma langue a fourché juste avant le flash, parce que j'ai dit que l'argent n'est pas si important que cela. Si, au contraire, c'est-à-dire que le premier cadeau cité dans les sondages, hein, loin devant tout le reste, c'est l'argent. Ça a toujours été un sujet finalement assez compliqué, l'argent à la place des cadeaux, parce que c'est pas la même chose.
C'est pas du tout la même chose, et c'est vrai que l'argent ne peut s'offrir que vraiment entre intimes. On imagine mal offrir de l'argent en cadeau de Noël à un ami ou à un voisin, sauf évidemment s'il y a...
Alors ça se fait beaucoup dans certaines cultures, ceci dit. Hein. Là aussi, ça se fait pas en Europe, mais par exemple, de l'argent dans la corbeille des mariés,
les mariages en Chine. Oui, tout à fait.
Vraiment, on voit les billets qui s'accumulent. Hein.
Tout à fait. Et puis les listes de mariage, finalement, on participe en donnant de l'argent pour acheter un cadeau collectif. Alors là, en période de crise, c'est vrai que les cadeaux collectifs se font de plus en plus, on peut participer, mais de l'argent de la main à la main, c'est vrai que l'usage est plus entre parents et enfants ou aux adolescents qui effectivement ont des goûts maintenant difficiles à
savoir. Et pourquoi ? Parce que c'est jugé finalement pas très poétique, pas très...
C'est pas très poétique, et puis la valeur de l'objet, quand on offre un objet, on offre une certaine valeur, bien sûr, chaque objet a une valeur. Mais là, c'est vrai que l'argent, de toute façon, vous remarquerez que même si on donne un billet, on le donne pas de la main à la main. On va le mettre dans une enveloppe. À la limite, on va décorer l'enveloppe, on va mettre un petit mot. Et le chèque cadeau permet de donner de l'argent d'une façon moins crue, j'allais dire.
Et en même temps, c'est un peu hypocrite parce qu'on sait bien que en coulisses, les discussions tournent beaucoup autour de mon oncle, vraiment, il s'est bien fichu de moi, il m'a offert un cadeau. Sous-entendu, il y a quand même même une valeur monétaire qui est toujours au cœur des discussions.
Tout à fait, et vous avez tout à fait raison. Et c'est vrai que, à la fois, c'est le signe de l'affection qu'on porte aux siens, puisque cette fois, ça existe. Mais c'est aussi parfois des règlements de compte. Il y a des cadeaux qu'on n'aime pas, et aujourd'hui, d'ailleurs, ils se revendent beaucoup dès le lendemain sur des sites internet, ce qui est vraiment une nouveauté depuis quelques années, depuis que les sites existent, et qui marque une rupture dans cet échange de cadeaux, de dons. Parce que le don, il est gratuit par définition. Donc, faire un bénéfice sur un don qu'on vous a offert, c'est vrai que c'est un peu étrange. Ouais. Alors, c'est de l'hypocrisie qui est levée, vous avez raison.
Pour là, évidemment, pour votre cible, Franck Mathé, c'est-à-dire les enfants jusqu'à la préadolescence, évidemment, la valeur monétaire est moins au cœur des discussions, non, du côté des enfants.
Les enfants, ils n'ont pas tout à fait, effectivement, cette notion monétaire, mais après, ils sont sur il y a un effet de taille, il y a un effet volume qui est très important. Et d'ailleurs, on remarque que c'est complètement intégré dans la stratégie des industriels, puisque à Noël, on a toujours des grosses boîtes qui arrivent. Vous pouvez avoir une gamme qui va bien fonctionner en courant d'année, mais pour Noël, il y a la grosse pièce qui sort, parce que finalement, l'enfant, qu'est-ce qu'il va voir? C'est qu'il va voir un objet emballé au pied du sapin. Et donc, il va se faire une idée de la valeur de l'objet par rapport à la taille de l'objet. Voilà. Pour lui, plus c'est gros, plus c'est cher, plus c'est important, plus il va être reconnu et récompensé. Donc cette notion-là est importante. Et on parlait tout à l'heure du fait qu'on puisse se regrouper pour faire des achats communs, des cadeaux communs. C'est un phénomène qu'on voit aussi au niveau du jouet, puisque on a des grands-parents qui vont s'associer avec les parents pour offrir le cadeau numéro un de la liste au Père Noël, et qui est souvent le cadeau le plus cher. Donc une tablette peut s'acheter avec l'aide des parents, des grands-parents, voire des oncles ou des tantes.
L'emballage, c'est assez récent, cette pratique de l'emballage, finalement, Martine Perrault. Non, parce que il y a eu une époque où on mettait l'objet lui-même seul, comme ça, au pied du sapin.
Ah oui, on voit ça sur les gravures anciennes. Les jouets n'étaient pas du tout emballés au 19e. C'est vrai qu'on a commencé par du papier blanc, du papier craft, et puis le papier historié est arrivé des États-Unis d'ailleurs, beaucoup.
C'est-à-dire le papier cadeau.
Le papier cadeau avec des petites illustrations. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, ça a été vraiment très très répandu.
Alors, cadeau utile, cadeau futile, ça c'est un vrai débat. Parce qu'il y a quand même un certain stress dans les familles aujourd'hui, qu'il faut éduquer son enfant le plus tôt possible pour qu'il suive à l'école, etc. Ça se retrouve aussi dans les stratégies des fabricants de jouets, Franck Mathé.
Ça se retrouve dans les stratégies des fabricants et surtout dans les stratégies des enfants. Parce que à Noël, les enfants, ils font leur liste au Père Noël. Et donc, finalement, ça devient, pour les parents, le passage obligé, la liste au Père Noël. Et c'est ensuite toute la discussion entre les parents et les enfants, les arbitrages, pour faire en sorte que nous arrivions à une liste finale. En moyenne, les enfants commandent 9 jouets au Père Noël.
Et mais ils n'en reçoivent pas 9. Hein,
ils en reçoivent 8. Donc, il y a déjà un petit écart qui va se faire. Mais en même temps, effectivement, les parents vont être... Évidemment, les jouets les plus demandés, ils vont aller dans le sens de la demande de l'enfant. Et puis, c'est sur les jouets de la deuxième ou de la troisième partie de la liste, où là, on va essayer de placer quelque chose d'éducatif, de créatif, pour donner un peu de sens du point de vue du parent. Parce que finalement, pour l'enfant, tous les objets qu'ils vont demander, pour lui, font sens. Ça correspond à sa façon de s'épanouir, à sa façon de se développer. Mais comme les enfants ne voient pas le monde du jouet comme celui des adultes, à un moment donné, ils vont se retrouver autour de produits qui, entre guillemets, sont plus intelligents que les autres.
Martine Perrault, le cadeau utile, c'est valable aussi pour les adultes?
Oui, c'est valable pour les adultes. Ça peut être... ça peut être, par exemple, un appareil électroménager. Et alors là, on est dans un rapport de sexe très, très intéressant, parce que les femmes reçoivent encore beaucoup de produits électroménagers, d'objets électroménagers.
De leur époux.
Il y avait une enquête INSEE qui date un peu, mais qui est toujours quand même valable, où on voyait que c'était un des premiers cadeaux qu'elle recevait. La mère de famille est quand même réduite à son statut de mère de famille et de ménagère, même si elle travaille.
Alors ça nous amène, évidemment, on n'en a pas encore parlé, mais le nouveau débat sur la mixité des jouets, finalement, aujourd'hui on essaye au maximum d'élever les enfants dans une certaine égalité des sexes, et on a beaucoup dit d'ailleurs que ce qui favorisait les garçons, notamment dans les matières scientifiques, c'était le fait qu'on offrait très tôt des jeux de construction qui favorisaient l'esprit scientifique, alors pendant qu'on continuait d'offrir des poupées aux petites filles. Est-ce que ça évolue, ça bouge ou pas tant que ça dans les magasins de jouets pour vous, Franck Mathé?
Les choses évoluent parce que la demande de nos clients évolue. Ce qui est intéressant, c'est que finalement tout ça, c'est pour les enfants une activité qui est imaginaire. Un enfant qui voit une maman ou un papa passer l'aspirateur, il ne sait pas les raisons pour lesquelles on passe l'aspirateur. Par contre, lui, ce qu'il voit, c'est un geste, et c'est ce geste qui l'intéresse. Et nous, on a observé que dans nos magasins, on avait des demandes de mamans qui nous disaient « Mais moi, je voudrais acheter un aspirateur pour mon petit garçon. » Sauf que la stratégie des industriels était d'orienter ces produits-là uniquement vers les petites filles. Parce qu'ils raisonnaient par rapport à une majorité de gestes du quotidien qui sont faits par les mamans. Mais avec l'évolution des comportements dans la société, même si beaucoup de travail reste à faire et les dernières études de l'INED le démontrent, on a des enfants aujourd'hui qui voient leur papa faire des choses et ils veulent imiter papa. Ou alors, le petit garçon, il voit sa maman faire quelque chose et il veut imiter sa maman. Donc, aujourd'hui, la demande des parents
a évolué. Donc, les industriels sont en retard sur les évolutions de la société et les désirs des familles, hein, ou
pas ? Les industriels sont toujours en retard par rapport à l'évolution des demandes sociétales. Oui, parce que il y a des enjeux qui sont des enjeux mondiaux aujourd'hui. Le jouet est un produit mondial et donc la stratégie, elle se décide au niveau de l'ensemble du monde. Ouais. Mais vous avez des acteurs locaux.
Donc, tant que le papa chinois ne passe pas l'aspirateur chez lui, et ben on n'aura pas d'aspirateur version masculine.
C'est ça. Pas le papa chinois qui fait la conception des produits, c'est souvent des sociétés européennes ou américaines. Mais par exemple, vous avez, nous on a développé une gamme chez nous.
C'est devenu un vrai marché quand même, hein, l'Asie pour le jouet. C'est pas seulement les pays où c'est fabriqué.
Alors c'est un vrai marché, mais pas encore un marché de consommation, puisque quand on arrive au marché du jouet, c'est l'ensemble des besoins primaires sont déjà bien satisfaits en matière de consommation. Là, on est sur des achats de cadeaux, donc ça se fera dans un deuxième temps. Mais ce qu'on observe, nous, c'est que par exemple, que ce soit chez nous ou certains fabricants, notamment français, sont développés des gammes mixtes. C'est-à-dire que ce sont des jouets qui vont répondre à une fonction d'imitation, que ce soit une activité de ménage, une activité de cuisine, une activité de marchande, mais qui vont être abordés sous un angle mixte, c'est-à-dire que le jouet, il sera ni rose ni bleu. Et de cette façon-là, que l'on veuille l'offrir à un garçon ou à une petite fille, eh bien, il sera accepté par cet enfant.
Martine Perrault, vous, évidemment, vous avez épluché les catalogues des années 50 et là, c'est absolument hallucinant.
Ah oui,
hein,
là,
parce que les jouets
confusion.
Sont sexués. Hein.
Ah oui, il n'y a pas de confusion et c'est vrai qu'il y a filles, garçons. Et puis, ce qu'on voit apparaître aussi, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est la segmentation par âge des années 60. Mais pour rebondir sur ce que Franck Maté a dit, il me semble bien avoir vu encore cette année dans des catalogues d'autres chaînes que la vôtre, les catalogues quand même fond rose pour les filles et fond bleu pour les garçons. Je crois que ça, malheureusement... Et quand on arrive dans un rayon, peut-être pas chez vous, on vous demande toujours si c'est pour une fille ou pour un garçon.
Alors oui, absolument. Vous avez... En fait, il y a deux notions. C'est-à-dire que vous avez des produits qui sont clairement destinés aux garçons ou aux petites filles. Et dans ces cas-là, l'industriel, parce qu'il fait du marketing, il va utiliser tous les codes qui vont faire que ça va plaire. Donc, si on est sur des poupées, très clairement, les poupées sont faites pour les mamans. Et donc, lorsqu'on s'adresse à une maman, on s'adresse à une petite fille. Donc, on va prendre tous les codes qui plaisent aux petites filles. On parlait des tablettes tout à l'heure. Vous avez des tablettes qui sont faites pour les petits garçons, des tablettes qui sont faites pour les filles. Donc, on va être dans les codes couleurs de l'un et de l'autre.
C'est ça.
Le rose, certaines vont être roses, d'autres vont être bleues, alors que c'est exactement le même produit. C'est simplement son habillage qui va correspondre à ce que l'un aime et ce que l'autre aime. Et puis, au milieu de ça, bah, vous avez des jouets qui peuvent s'adresser aussi bien à l'un et à l'autre. Les jeux de société sont des jouets mixtes. Les jeux créatifs, certains sont mixtes, d'autres sont destinés aux petits garçons, aux petites filles. Les jeux de construction. Et d'ailleurs, on a une célèbre marque de jeux de construction qui a clairement dit, moi, je vais développer une gamme spécialement pour les petites filles. Et donc, elle va prendre tous les codes qui plaisent aux petites filles.
Vous pensez à quelle marque, là,
Je pense à Lego, avec les Lego Friends. Où là,
mais
on
Playmobil
est...
aussi, hein, qui ont été très unisex.
Alors, Playmobil,
quand même,
ils sont mixtes. Ils ont développé une gamme pour les filles, mais qui est vraiment très, très réduite par rapport à l'ensemble de la collection, avec un discours qui n'est pas affirmé, alors que Lego, lui, a dit clairement, moi, c'est exclusivement pour les filles. D'ailleurs, c'était le slogan de leur publicité. Et ça marche très, très fortement. Aujourd'hui, la dynamique de cette marque, elle est portée par cette nouvelle clientèle qui apprécie les produits parce que c'est une histoire de jeune fille qui évolue dans un univers très féminin, avec un emballage de produits qui correspond au code féminin, donc ça fait mouche.
C'est ça, il n'y a pas que la couleur. Hein. Oui, Martine Perrault.
Non, mais là, je ris en vous écoutant, parce que j'ai l'impression qu'on est en pleine régression, c'est-à-dire que les codes féminins, c'est finalement, on est dans les stéréotypes, encore comme au 19e, là.
Alors, mais c'est exactement rose, ça, parce que le petit garçon et la petite fille,
là,
il y a 100 ans,
je veux dire,
c'est toujours les mêmes.
Offrir un petit aspirateur bleu à un petit garçon et un petit aspirateur rose à une fille, on n'a pas avancé.
Alors aujourd'hui, on a des aspirateurs qui sont mixtes, c'est-à-dire qu'ils sont ni roses ni bleus.
C'est vous ça,
voyez, ils sont violets, blancs, oranges.
Oui, ils sont
totalement impersonnels, si vous voulez, par rapport à l'utilisateur. Et c'est ce qui plaît aux mamans, parce que du coup, elles peuvent l'offrir sans craindre le fait que le petit garçon dise non, je n'en veux pas. parce que c'est pour les filles.
Martine Perrault, les jouets belliqueux, les guerres ont beaucoup influencé quand même une certaine partie des jouets, hein, et des cadeaux qu'on offrait à Noël pour les garçons.
Les guerres, oui, les uniformes militaires qui étaient vraiment recopiés avec minutie, les armes de guerre, les soldats de plomb.
Vous dites, je sais plus, il y a eu une époque, est-ce que c'était après la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, après la Première Guerre, il me semble, où on a tellement fabriqué de sabres que ça a pesé sur l'industrie.
Oui, hein, oui, de la métallurgie, oui, 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 j'ai retrouvé ça dans un texte, effectivement, de l'époque. Et c'est vrai que les petites filles étaient déjà dans les dinettes, dans les maisons de poupées, les belles maisons de poupées qu'on voit moins, parce que ça, c'était des jouets très, très chers, faits de façon artisanale.
Et quand on s'éloigne des guerres, est-ce qu'il y a moins de jouets belliqueux pour les garçons ou pas tellement?
Écoutez, aujourd'hui, il y a Star Wars, il y a toujours Star Wars, j'imagine.
Star Wars, c'est toujours une gamme qui fonctionne très bien.
Donc, c'est belliqueux, oui, ça reste belliqueux, mais c'est moins réaliste. On est plus dans la science-fiction, mais il y a toujours des guerriers, des GIs miniatures,
Et puis les super-héros, tous les super-héros de Marvel, absolument, qui existent toujours très bien. Donc, non, mais l'affrontement, c'est une notion qui est présente dans les jouets et surtout dans tout ce qui va être l'univers des figurines. Voilà. On va avoir tout l'univers des jeux de société, de la construction, du premier âge, on n'a pas ça, mais pour toute la tranche d'âge des 6-10 ans, on va retrouver tous ces jeux qui font appel à un super-héros, il y a les gentils, il y a les méchants, et donc c'est un combat que l'enfant va organiser.
Alors, on parle beaucoup depuis quelques années de privilégier le Made in France, parce que c'est vrai qu'il y a eu toute une polémique sur les origines douteuses des fabrications, les copies qui pouvaient être dangereuses, les conditions de fabrication des jouets en Chine avec une main d'œuvre exploitée et parfois très jeune. Est-ce que ça, c'est une réalité aujourd'hui, le Made in France en l'occurrence, ou le Made in Germany, ou le Made in Europe, ou pas du tout, au moment de passer à la caisse?
Alors, c'est une vraie réalité, puisque aujourd'hui, vous avez à peu près 30% des jouets vendus en magasin qui sont fabriqués en Europe. Donc, le Danemark, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie. Donc,
c'est un chiffre qui a augmenté?
C'est un chiffre qui est assez stable, en fait, puisque, en fait, il tient aux marques. Donc, l'Allemagne, c'est parce que c'est Playmobil. Le Danemark, c'est parce que c'est Lego. Donc, si les marques sont en bonne santé, eh bien, la part de marché va s'accroître un petit peu. En France, les fabricants continuent à résister. Souvent, ils se regroupent parce que ils font face à des difficultés économiques qui font que il faut se rassembler pour être plus fort et pour résister finalement à ces effets de mode. Vous avez à peu près 50% des jouets qui changent d'une année sur l'autre. Donc, il faut résister à cela. Et puis, il y a aussi la saisonnalité. Et pour un industriel, lorsqu'on a ses propres usines, eh bien arriver à faire tourner son usine tous les jours de l'année, c'est pas évident quand on sait que 50% des ventes sont concentrées sur 8 semaines. Donc c'est ça qui crée la difficulté. Mais l'industrie française, lorsqu'elle s'organise, lorsqu'elle est créative, elle arrive à exister. Et puis, ben, nous avons aussi notre rôle à jouer, nous, en tant que distributeurs. Et c'est vrai que dans notre enseigne, notamment sur cette année, nous avons mis en place une opération de visibilité des marques française et des produits françaises pour que, à produit équivalent, souvent c'est au même prix, eh bien un consommateur puisse être influencé par le fait que le produit qu'il va acheter est fabriqué en France.
Oui, enfin, c'est pas toujours au même prix quand même.
Ce sont des produits qui sont au même prix des marques, parce que on n'est pas sur des produits à effet de mode, on est sur des produits classiques. Donc lorsque vous fabriquez une brique, qu'elle soit fabriquée en France, en Allemagne ou en Chine, elle va se retrouver au même prix en magasin.
Quand vous dites une brique, c'est...
Une brique, donc c'est un jeu de construction. Vous avez les jouets Écoffier qui sont fabriqués dans la plaine de l'Ain, à côté de Yenax. Eh bien, ils sont capables de faire des produits qui sont très compétitifs en termes de prix de vente.
Quand on vous entend parler, tout de même, on se dit... si on prend du recul, Martine Perrault, sur tous ces cadeaux qui vont s'échanger dans quelques jours, qui ont causé beaucoup de tracas aux parents, et puis surtout si on compte aussi les cadeaux qui sont offerts entre adultes... Hein, au lendemain de Noël, que reste-t-il de tout cela finalement? C'est une question que vous posez dans votre livre, hein, sur cette espèce de côté complètement éphémère.
Oui, côté éphémère, et puis c'est comme, alors ça en anthropologie, on le sait, si vous voulez, c'est comme tout rituel, ça s'accompagne de ce qu'on appelle un gaspillage cérémoniel, c'est-à-dire qu'il y a une dépense excessive qui correspond aussi à une envie de se faire plaisir, et on voit bien qu'en période de crise, ça baisse très très peu, et ça ne baisse pas pour les enfants. Et que la période de Noël met en évidence effectivement le le rôle de la famille, le rapport aux enfants, le rapport au rituel, à la consommation. Et c'est certains économistes parlent de purge, vous savez, c'est comme si la société ouvrait ses robinets en grand. Et puis, effectivement, le lendemain de Noël, il y a voilà une gueule de bois, on peut dire.
Et le porte-monnaie un peu vide.
C'est le porte-monnaie un peu vide. Mais maintenant, effectivement, ce qu'on a dit au début de l'émission, il y a cette revente qui change quand même la donne.
Ah, la revente des cadeaux sur Internet.
Oui, qui est effectivement, finalement, on récupère un peu.
Mais qui ne fait qu'accentuer le revers de la médaille des cadeaux de Noël. Hein.
Le revers de la médaille, et puis ce don gratuit l'est de moins en moins.
Son inutilité, d'une certaine façon.
Oui, c'est ça, son côté éphémère, et puis son côté gratuit, oui.
Martine Perrault, pour redécouvrir Noël avec un regard neuf, il faut vous lire Le cadeau de Noël, histoire d'une invention, évidemment d'une invention commerciale, on l'aura compris, et c'est publié aux éditions Autrement. Franck Mattet, dernière ligne droite pour vous avant la fête, avant les fêtes à la Grande Récré, encore que tout est joué ou presque.
Cette semaine représente 10% du chiffre d'affaires annuel, donc c'est une semaine assez exceptionnelle que nous allons vivre.
Mais on fait quand même ces cadeaux plutôt 3 semaines avant, non, maintenant
De plus en plus au dernier moment. De plus en plus, les gens prennent le temps, ils ont le temps. Noël, c'est un mercredi, donc il reste un peu plus d'une semaine. Donc là, c'est le rush est attendu en magasin pour la fin de semaine.
Le rush des retardataires qui font tout à la dernière minute. Les voisins, vous restez avec nous dans quelques instants. Il est question de bourse d'études pour les étudiants en Afrique des Grands Lacs, destination une université américaine à Atlanta. Merci à tous les deux d'être passés par le studio de RFI chez 7 milliards de voisins. In 95 when my father was still alive, hip hop hit my heart and I started to feel the vibe. I'd listen to Nas, spit rhymes too damn correct. I can't forget my donkey style and my Wu-Tang cassette. See, I was only 10, holding the pen, hoping to find schemes, rhyming over and over again. At 13 I had a crew, we flowing hang out, and that's how I started rapping with the homie Bang Pow. He went his way and I went mine. He switched the turntablism, I perfected my rhyme. A decade later we met again and said what up. We got to get together and tear the stage the fuck up. Out in the prize and a dough making, but we wanna say thanks to you folks for donating. Peace to all the reviews and dope ratings. For those defending scold to this till they don't ache it. Thanks to y'all, we gon' keep feasting off MC, and we gon' keep performing, beat making, feasting for a reason. Peace to all you people, Eastern European, Swedish or Norwegian, Aussie, Asian, even North Korean. France, Germany, US and the UK, Africa, Mexico, and even kiss some Uruguay. Chill out and bump this, cause this is a new day. And haters, we couldn't give a shit about what you say.
Milliards de voisins, c'est sur NFI.
Et voici des informations pour les étudiants africains dans la région des Grands Lacs. Des bourses d'études en vue du côté des États-Unis. Nous sommes en ligne avec Julius Cole. Bonjour.
Oui, bonjour.
Julius Cole, vous êtes le directeur de Morehouse College à Atlanta, en Géorgie. Le Morehouse College, c'est ce qui s'appelle chez nous, en fait, une université de premier cycle, Undergraduate University. Et le Morehouse College à Atlanta, présente des programmes de bourses très ciblés sur des matières, en revanche, très larges, les beaux-arts, les sciences humaines, le commerce. Alors, de quoi s'agit-il, ces bourses pour des étudiants en Afrique?
Oui, je crois que c'est un bon programme de bourses pour ces étudiants. C'est-à-dire, la fondation Buffett a donné à Morehouse une don de $1 million pour ces bourses. Et cette bourse, c'est pour des étudiants qui viennent de la région de Grand Lac de venir à Morehouse College pour faire les études en général. On peut faire de Sciences Po, on peut faire l'économie, la sociologie, l'histoire. Aussi, on peut faire des études de leadership. Et ça, c'est comment on peut être un dirigeant.
Voilà, des programmes en tout cas d'études qui pourraient intéresser les étudiants. Alors, vous offrez 5 bourses pour 4 ans d'études au Morehouse College à Atlanta. Tout frais compris, hein, pour ces 4 années d'études pour 5 étudiants. Et ça concerne des étudiants exclusivement de la RDC, République démocratique du Congo, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Vous imaginez tout de même, Julius Cole, la déception de certains auditeurs. Alors pourquoi seulement ces pays-là dans les Grands Lacs?
Oui, ils sont des pays qui sont tout près de conflit au Congo. La fondation de Buffett a donné beaucoup d'argent pour la région de Kivu. Et ils ont été intéressés pour former un groupe d'étudiants qui sont dans tout près de cette région. Et tous ces pays sont au bord de la région de Kivu. La Rwanda, Burundi et Rwanda, ils sont tout près de cette région. Et ça, c'est la raison ils ont choisi ces pays.
Alors, ce financement, vous le disiez, il s'agit de $1 million, hein, pour 5 bourses, 5 étudiants pour 4 années d'études. Et c'est financé par une fondation privée, la fondation Buffett, qui a un lien avec cette région de l'Afrique.
Oui, c'est une fondation qui a travaillé pendant 15 ans dans la région, et cette fondation a donné environ $145 million pour les programmes de développement dans cette région.
Quel doit être le profil des candidats qui vont postuler pour peut-être obtenir l'une de ces 5 bourses pour 4 années d'études à Atlanta?
Il faut que ces étudiants aient des étudiants de bonne qualité, qui sont dans les 10% de leur classe, et qui sont pris des examens américains comme la SAT et la ACT. Il faut avoir une bonne note dans ces examens.
Donc en fait, vous demandez des élèves qui sont les premiers de leur classe.
Oui, mais en même temps, il faut que ces étudiants aient eu un sens de service communautaire. Ils ont été dans des activités de leur lycée, ils ont fait des activités pour sociaux et pour bénéfice des gens dans la communauté.
Des étudiants brillants qui ont le sens des autres, et y a-t-il un âge limite?
Oui, il n'y a pas de limite de l'âge chez nous. On va chercher des gens peut-être entre 18 et 30 ans, parce que nous avons des étudiants, surtout qui viennent d'Afrique, qui sont plus âgés que les étudiants américains. Mais normalement, les étudiants américains, ils sont à l'âge de 18 à 25 ans.
Ces étudiants africains que vous cherchez à recruter pour ces 5 bourses, ils étudieront dans une université Morehouse College à Atlanta, qui est une université qui reçoit essentiellement des étudiants africains-américains?
Oui, c'est ça, parce que historiquement, c'était un college qui était formé pour les Noirs américains. Maintenant, nous cherchons des étudiants partout dans le monde, mais cette université est peut-être 90% des Noirs américains.
Merci beaucoup, Julius Cole. Je rappelle que ce programme s'appelle Rougarie Scholarship Programme. Rougarie, c'est le nom d'un village qui est situé dans le nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Un village qui est situé au cœur du conflit qui a agité la région jusqu'à maintenant. Et donc, le Morehouse College of Atlanta offre 5 bourses pour 4 années d'études. Et donc, bien évidemment, vous pouvez envoyer votre candidature à Rougarie Scholarship Programme. Et l'adresse mail, c'est rougarie-scholarship-programme@morehouse.edu. Et bien évidemment, l'adresse postale, le site internet, etc. Tout est noté sur la page des 7 milliards de voisins sur le site RFI.fr. Merci beaucoup, Julius Cole, directeur du Morehouse College à Atlanta.
Merci beaucoup.
Voilà, et pour toutes vos questions, vous pouvez aussi nous écrire, bien sûr, à 7milliards@rfi.fr. Merci à toute l'équipe qui réalise cette émission du lundi au vendredi. Cécile Lavolo, Éléonore Krenik, Romain Dubrac. À demain, 7 milliards de voisins, nous parlerons des femmes en Inde. Un an après le viol et l'assassinat de l'étudiante de New Delhi qui avait fait descendre des millions de personnes dans les rues en Inde. Quel changement pour la sécurité des femmes? La nouvelle génération peut-elle faire évoluer aussi la société? Vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions à nos invités dès maintenant sur notre page Facebook, ou bien vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71, et c'est toujours le même mode d'emploi, vous appelez, vous laissez très vite votre numéro de téléphone afin de ne pas dépenser d'argent sur votre compte téléphonique, et on vous rappelle immédiatement. À demain les voisins.
you know you can listen to CIUT five different ways? Online, on satellite TV, digital cable, on FM radio, and on the go. Find CIUT online at iTunes Radio under Campus University, or go to the live stream at www.ciut.fm. You can also locate us on satellite at Star Choice Channel 826, Rogers Digital Cable Channel 946, and Bell 5 Channel 970. Listen to us on the go with TuneIn Radio's free app. Don't forget, we're on the FM dial at 89.5 FM. Spread the word. The evolution continues. CIUT 89.5 FM.
Sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale.
Il est 7h33 à Montréal et Port-au-Prince. Merci d'écouter RFI.
François Mazet.
Dany Laferrière entre à l'Académie française. L'écrivain haïtien établi au Canada a été élu hier membre de la plus prestigieuse institution de la littérature francophone. Symboliquement, il s'assiera dans le fauteuil jadis occupé par un autre caribéen, le romancier Alexandre Dumas-Fils. Dany Laferrière, que vous entendrez dans un instant. Il est l'invité de RFI. Aujourd'hui, on en parle également de votre revue de presse. Stéphanie Schuller, bonjour.
Bonjour François, bonjour à tous. Oui, en effet, on va évidemment parler de l'entrée de Dany Laferrière à l'Académie française. Mais on va parler aussi des États-Unis et de la guerre des armées ouvertes entre les dirigeants républicains et les ultra-conservateurs du Tea Party après le vote hier à la Chambre des représentants du budget 2014-2015. Et on va terminer sur les manifestations à Bogota qui prennent de plus en plus de l'ampleur. Les habitants de la capitale colombienne défendent leur maire démis de ses fonctions en début de semaine.
À suivre également sur RFI notre rendez-vous quotidien avec l'actualité de l'outre-mer français, ce sera avec Benoît Ferrand dans un quart d'heure. Yvan Amar souhaitera un bon anniversaire à un grand titre de la presse française. Libération fête aujourd'hui ses 40 ans. Avant cela, nous irons en Équateur où un prêtre italien a initié une expérience de développement dans un petit village des Andes. Reportage à plus de 3400 mètres d'altitude où le développement passe par les préceptes de l'économie solidaire. Dany Laferrière est donc immortel. Désormais, il portera bientôt l'épée et l'habit vert. L'écrivain haïtien, adopté par le Québec, a été élu à l'Académie française le Saint des Saints de la littérature francophone dès le premier tour avec 13 voix sur 23. Il succède à l'auteur argentin Hector Biancotti, décédé en 2012, et il occupera le fauteuil numéro 2, celui d'Alexandre Dumas-Fils, l'auteur de La Dame aux Camélias, lui aussi d'origine caribéenne. Dany Laferrière a appris son élection sur Twitter, félicité par l'auteur franco-libanais Amin Maalouf. Dany Laferrière est en ce moment à Port-au-Prince, c'est là qu'Amélie Baron l'a rencontré.
Je me sens un peu de fièvre. Non, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait. Et c'est vrai qu'il y a eu une compression du temps, puisque j'ai couché hier soir mortel, je me suis réveillé immortel.
À 60 ans, être jeune académicien, est-ce que vous n'avez pas peur de vous ennuyer avec toutes ces vieilles personnes?
Non, ça n'a rien à voir. Moi, je n'ai jamais cru que être âgé vous rend ennuyeux comme être jeune vous rend vif et intelligent. Non, je fréquente des fois les cafés et les discothèques où l'on parle beaucoup d'horoscopes. Je ne vois pas en quoi on pourrait s'ennuyer avec un Robert Badinter qui a quand même fait enlever la peine de mort en France et qui est l'un des esprits et les plus intéressants, Jean-Denis Bredin ou encore un Dominique Fernandez sur la question de l'Italie, ni avec une Simone Veil qui a réglé la question de l'avortement en France. Et donc je ne vois pas pourquoi brusquement un certain âge vous rend moins intéressant qu'un autre. Vous savez, la vieillesse, c'est nous dans 20 ans.
Premier Québécois, premier Haïtien à être entré à l'Académie française. Est-ce que pour vous, c'est une preuve que la francophonie n'est pas seulement franco-française?
C'est une preuve qu'on a retenu ma candidature. D'abord, je ne pense pas que je sois élu à l'Académie française sur une question idéologique. C'est une question d'abord d'un travail long, de 30 ans d'écriture, une vingtaine de livres, des films, des livres jeunesse, une présence constante sur la scène internationale. Le message, c'est que si vous voulez faire quelque chose, il faut travailler dur et aussi ne pas oublier l'audace. L'audace de Toussaint Louverture qui prend des chances parce que je ne suis pas résident à Paris ni français. Et puis, j'ai posé ma candidature et le secrétaire perpétuel de l'Académie, Hélène Carrère-Dancos, a été obligé de questionner François Hollande, président de la République française, sur cette question-là. Pour régler le problème de la nationalité. Et on lui a répondu, ce n'est pas dans les règlements de l'Académie et depuis le début, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà. J'ai pas eu à faire une élection présidentielle, donc je n'ai pas de programme politique ni électoral. Je suis à l'Académie parce que j'ai écrit des livres. Et puis aussi, je suis présent sur la scène culturel, c'est-à-dire je ne me contente pas d'écrire, mais aussi je suis présent parmi mes contemporains pour discuter de choses qui nous intéressent ces temps-ci de plus en plus, les questions de démocratie, les questions d'identité, les questions de sensibilité propre, les questions de technologie, sa capacité de permettre aux jeunes du tiers-monde aussi d'être dans l'instantanéité avec le reste du monde, parce qu'il fut un temps où il fallait attendre les livres, les films, 10 ans plus tard. Et maintenant, on peut y accéder très rapidement. Mais en même temps aussi, les difficultés que pose cette technologie-là. Parce que, comme a dit un de mes amis, un peu de technologie rend abouti, beaucoup de technologie libère. Et puis aussi, je voulais faire savoir au monde que Haïti est un pays où les gens sont passionnés de lecture, comme cette lettre que m'avait envoyée un jeune Haïtien que j'ai mis dans mon livre « L'énigme du retour » qui disait « Dites aux gens, chaque fois qu'ils envoient un sac de riz, qu'ils envoient en même temps un sac de livres, car en Haïti, nous ne mangeons pas pour vivre, nous mangeons pour lire. » Donc je trouve que c'est extrêmement important de faire savoir au monde tous ces visages jeunes et passionnés, et alors qu'on nous a dit que si vous êtes pauvre, et vous avez d'abord d'autres choses à régler avant de passer à la culture. Les Haïtiens sont des fous, ils mettent la culture avant la nourriture. D'ailleurs, c'est notre problème aussi, on a mis trop la culture avant l'agriculture. Donc, mais quand même, ça fait un pays qui a une âme.
Dany Laferrière, premier Haïtien, mais aussi premier Canadien à entrer à l'Académie française. Il était au micro RFI d'Amélie Baron à Port-au-Prince. La revue de presse des Amériques avec Stéphanie Schuller. Bonjour, rebonjour Stéphanie plutôt.
Oui, rebonjour.
L'élection de Dany Laferrière est bien sûr très commentée et saluée dans les presses, notamment en Haïti et au Canada, forcément.
Ouais, tout à fait. Le site information Haïti Press Network résume les réactions officielles. Le président haïtien Michel Martelly a ainsi salué l'élection de l'écrivain qui vient encore confirmer l'excellence et le dévouement de ce fils de Petit Gouave, une ville dans le département de l'ouest d'Haïti. La ministre haïtienne de la Culture, Josette Darguste, s'est réjouie quant à elle que la littérature soit en fait, c'est un honneur pour tout le pays, a-t-elle déclaré. Un collègue de Dany Laferrière, l'écrivain Rodney Saint-Éloi, voit l'élection de son ami comme quelque chose qui permet de repousser les limites de ce rêve que des Haïtiens croient interdit. Dany, l'immortel, défend notre dignité en accédant à ce poste, peut-on lire sur le site de l'agence Alter Press. De son côté, le nouveliste s'exclame « L'élection de Dany Laferrière à l'Académie française est un geste ô combien historique qui vient de nous remettre sur la carte du monde. »
Beaucoup de réactions également dans les rangs de la diaspora haïtienne, Stéphanie.
Et notamment au Québec, où Dany Laferrière vit depuis 35 ans, dont le journal de Montréal, Robert Stanley Figaro de la radio haïtienne CPAM espère que le monde portera un regard nouveau sur Haïti. Dany va ouvrir la porte à d'autres écrivains tout aussi talentueux avec sa notoriété, en montrant notamment aux jeunes qu'ils pourront se consacrer à la littérature. La première ministre du Québec, Pauline Marois, s'est dite également très fière de l'élection de Dany Laferrière. D'ailleurs, c'est elle, Pauline Marois, qui avait recommandé la candidature de l'écrivain à l'Académie française, rappelle le journal La Presse.
Direction les États-Unis maintenant, la Chambre des représentants a adopté hier un budget pour 2014 et 2015.
Après des semaines de négociations, les députés ont adopté à une très large majorité, 332 contre 94 voix, ce budget qui, s'il devenait loi, permettrait de financer le gouvernement jusqu'en 2015 et éviterait ainsi un nouveau shutdown en janvier prochain. Ce budget, qui doit maintenant passer devant le Sénat la semaine prochaine, est un compromis à minima, mais un compromis quand même entre républicains et démocrates, se réjouit le Washington Post. Après les batailles budgétaires exécrables qui ont paralysé le Congrès pendant 3 ans, les deux camps espèrent que cet accord bipartisan agira comme une sorte de cessez-le-feu, estime de son côté le New York Times, qui souligne que cette fois-ci, le Parti républicain a clairement tenté de marginaliser dans ses rangs les ultra-conservateurs, opposés, comme à leur habitude, à toute forme de compromis.
Et du coup, entre les dirigeants républicains et la faction du Tea Party, rien ne va plus.
Le site internet de la chaîne américaine ABC News parle aujourd'hui d'une, je cite, « véritable guerre civile » qui a éclaté au sein du Parti républicain. Ainsi, le président de la Chambre des représentants, John Boehner, dont la stratégie a été contrecarrée à plusieurs reprises par les révoltes des Tea Party, ne mâche plus ses mots. « Je m'en fiche de ce qu'ils pensent ou de ce qu'ils font. Pour être franc, j'estime que les ultra-conservateurs mènent leurs partisans dans la mauvaise direction et travaillent contre les intérêts du Parti républicain », a-t-il déclaré. Et le Los Angeles Times conclut également sur les membres du Tea Party. « Décidément, il y en a qui n'apprennent jamais rien ».
On s'intéresse à la Colombie maintenant, plus précisément à Bogota, la capitale où des milliers de manifestants se rassembleront encore aujourd'hui autour de la mairie.
Les manifestations de grande envergure pour empêcher que le maire de Bogota, Gustavo Petro, soit démis de ses fonctions et déclaré inéligible pendant 15 ans. C'est pourtant ce qui a été ordonné lundi dernier par le procureur général de Colombie, Alejandro Ordóñez, qui accuse le maire de Bogota d'avoir retiré à des entreprises privées la collecte d'ordures au profit profit de la compagnie publique des eaux. Ainsi, toujours selon le procureur général, Gustavo Petro a violé les principes constitutionnels de la concurrence.
Un point de vue que ne partagent évidemment pas les partisans du maire.
Pour eux, Petro est attaqué parce qu'il est un symbole de la paix. Le Miami Herald rappelle que Gustavo Petro est un ex-guerrillero qui a réussi sa reconversion démocratique. Au moment où le gouvernement colombien négocie avec les FARC et pense qu'un accord de paix est possible, les adversaires notoires de ce processus cherchent à le saper par tous les moyens. Ce n'est donc pas seulement pour leur maire que les habitants de Bogota vont se mobiliser aujourd'hui, mais aussi pour cette paix avec les FARC. De son côté, le journal El Espectador note que le gouvernement ne s'est pas encore officiellement prononcé sur la destitution du maire de Bogota. Les autorités craignent que la situation ne leur échappe. Elles appellent la population au calme.
Merci Stéphanie Schuller, Revue de presse des Amériques, à retrouver comme chaque jour sur notre site internet www.rfi.fr.
RFI. Ensemble, parcourons le monde.
Les Amériques au quotidien, RFI vous emmène aujourd'hui en Équateur, dans un petit village andin situé à 3400 mètres d'altitude, tout près du volcan Chimborazo. Et dans ce petit village de Salinas, s'est développé, selon les préceptes de l'économie solidaire. Reportage de notre correspondant Eric Sanson.
Oublié pendant des siècles dans un creux du Paramo, Salinas doit son existence et son nom à des coulées de sel qui jaillissent de la roche au bord d'une petite rivière. Jusqu'au début des années 70, avant la réforme agraire, toutes les terres du village appartenaient à l'hacienda de la famille Cordobés. Salinas n'était même pas un point sur une carte. Hernán Chamorro, salinero de souche.
Au début, l'organisation de la population était très dure. Tout appartenait à l'hacienda, nous n'avions que le sel. On devait donner 10% du peu qu'on gagnait à l'hacienda. Heureusement, des gens sont venus nous aider à sortir de cette époque si difficile.
Pas vraiment des gens d'ailleurs, mais au début, une seule personne, le père salésien italien Antonio Polo, qui n'oublie pas sa première vision de Salinas, de ses huttes de paille et de terre.
C'était très poétique. Nous, les Occidentaux, on aime bien ce qui est exotique. C'est après, quand on voit la pauvreté extrême et le manque de qualité de vie, que l'impression change.
Après avoir gagné la confiance de la population, Antonio Polo organise une petite coopérative de crédit qui permet aux habitants de racheter leurs terres et de profiter de la réforme agraire. Puis viendront les premiers ateliers textiles en 1973 et la fabrique de fromage grâce à l'aide d'un coopérant suisse. Le tout sous la forme d'entreprises solidaires aux particularités bien précises. Luis Cordoba, jeune habitant de Salinas.
À Salinas, les bénéfices ne sont pas répartis entre les ouvriers, mais réinvestis, et c'est tout le village qui grandit comme une micro-entreprise.
Les surprises sont visibles dans toutes les rues du village. En plein milieu des Andes, une fabrique de chocolat donne par exemple du travail à 18 personnes, dont Arturo Castro.
Tout a commencé comme une expérience du père Antonio. Comme beaucoup de touristes nous visitent, les ventes de chocolat ont commencé à augmenter. Grâce à l'aide de retraités suisses aujourd'hui, l'entreprise marche bien.
Certaines entreprises solidaires fabriquent des ballons de football, une idée empruntée à des visiteurs étrangers. D'autres se sont lancés dans la fabrique de dérivés de soja ou de charcuterie. Le village est plein de jeunes qui n'ont plus besoin d'émigrer, car ici, il y a du travail. Les produits sont vendus dans tout le pays et parfois à l'étranger, sous la marque dite du Salinarito. Des jeunes ont construit un petit hôtel, une radio communautaire. D'autres ont créé leur entreprise, comme Gilder Duran, qui commercialise des champignons secs.
C'est parce que Salinas est Salinas que j'ai pu me former. Ici, il y a des entreprises solidaires, donc j'ai pu voir comment faire. J'ai travaillé avec elles, j'ai étudié, et il y a 8 ans, j'ai pris mon indépendance du Salinerito.
Si les maisons en paille ont disparu, remplacées par des briques et du ciment, ici, il n'y a pas de luxe. La vie des habitants est toujours dure, mais à ses compensations, selon le père Polo.
En un sens, les gens ici sont riches. La qualité de vie est bonne, on est tranquille. Les gens savent que leurs produits seront vendus, que leur travail a de la valeur et que leurs enfants vont étudier et puis qu'ils trouveront du travail ici sur place. Si ça, c'est être riche, alors Salinas est riche. Nous avons trouvé une jolie façon de vivre le royaume de Dieu, pas seulement en l'annonçant durant le catéchisme ou les sermons, pas seulement en le célébrant durant la messe, mais en le vivant tous les jours au travers de l'économie solidaire.
Éric Sanson, Salinas, RFI.
L'actualité des Outre-mer françaises avec Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Le président François Hollande passe par la Guyane ce vendredi après-midi. Lors de sa dernière visite en janvier 2012, il n'était pas encore président.
Non, il était candidat à la présidentielle et il avait alors fait un certain nombre de promesses et pris un certain nombre d'engagements pour l'outre-mer en général et la Guyane en particulier. Alors, 23 mois plus tard, où en est-on? Le point avec Laurent Marot.
Le candidat Hollande s'est engagé contre la vie chère en Outre-mer. 6 mois après son élection, une loi crée un bouclier qualité-prix pour des produits négociés chaque année et renforce les pouvoirs de l'autorité de la concurrence. Mais les résultats restent encore modestes. Par ailleurs, un décret controversé doit réguler le prix des carburants d'ici janvier. Le candidat avait aussi promis 500 millions d'investissements pour l'Outre-mer, programme qui tarde à se mettre en place, et l'implantation de la Banque publique d'investissement, ce qui devrait être effectif début 2014. Le candidat socialiste a aussi promis plus de logements construits. C'est vrai pour 2013, mais cela devrait baisser en 2014. La création en Guyane de 650 emplois d'avenir, dont la moitié ont été pourvus, n'a pas enrayé la hausse du chômage. Et si les zones de sécurité prioritaires ont donné des résultats, l'orpaillage clandestin a repris dans l'intérieur. Enfin, malgré sa promesse, le candidat Hollande n'a pas remis en chantier le schéma minier.
Le président de la République est attendu à 15h cet après-midi à l'aéroport Félix Éboué, 19h ce soir en heure de Paris. C'est l'une des dernières manifestations de l'année Césaire dans l'Hexagone. L'école normale supérieure, l'ENS, à Paris, a inauguré hier soir une salle Aimé Césaire avec une plaque au nom du poète. Le plus illustre des Martiniquais a effectivement été élève de l'école normale supérieure. Entre 1935 et 1939, c'est là qu'il aurait rédigé une partie du fameux cahier d'un retour au pays natal. Le député et président de la région Martinique, Serge Letchimy, avait fait le déplacement. Même s'il était temps que l'ENS rende hommage à Césaire, et bien que la salle qui porte désormais son nom ne mesure que quelques mètres carrés, Serge Letchimy estime que Césaire aurait apprécié la sobriété de l'hommage. Il l'a dit au micro de Cyriac Sommier.
Il n'y a pas de petite salle ou de grande salle pour Aimé Césaire. Il y a simplement la reconnaissance de l'école normale supérieure et de tous ceux qui sont passés ici certainement pour un homme remarquable, un homme exceptionnel qui a certainement appris beaucoup de choses ici sur la littérature d'une manière générale et plus particulièrement la littérature française. Mais ça fait partie des grandes manifestations et je pense que Aimé Césaire était très content. Ce genre de symbole, il aime bien. De manière sobre et notamment sur le plan de la poésie, de la littérature, sur un plan purement intellectuel au-delà des passions politiques.
On termine avec les 11 stagiaires du centre de formation Guadeloupe Grand Large qui entrent dans une nouvelle phase d'apprentissage. L'objectif de ce centre, unique en Outre-mer, est d'aligner des skippers compétents sur les transatlantiques, comme la route du Rhum bien sûr. Les stagiaires qui ont entamé depuis le 1er octobre une formation qualifiante au métier de la maintenance et de skipper vont recevoir la semaine prochaine Jean-Yves Bernaud, routeur et météorologue, celui qui a été le rouleur, routeur d'Hélène MacArthur quand elle a remporté la route du Rhum en 2002, celui de Michel Desjoyeaux quand il s'est adjugé la transat anglaise en 2004, eh bien enseignera aux Guadeloupéens la stratégie et bien sûr la météorologie, des bases importantes selon Jean-Yves Bernaud au micro d'Alain Rosali.
La course au large, c'est un métier complexe, donc la Guadeloupe ne manque pas de bons marins, même de très bons marins. Puis après, il faut leur donner les bases pour devenir des marins océaniques. Le problème de la voile océanique, c'est qu'on est tributaire d'un matériel, c'est un gros bateau, et puis tout un savoir-faire au niveau de la météorologie, de la stratégie, des logiciels de routage, etc. Et c'est ça qu'on va commencer à mettre en œuvre auprès des marins guadeloupéens. On va, avec les stagiaires, donc commencer à leur faire entrevoir ce qu'il faut qu'ils apprennent, comment on travaille. L'idée, c'est toujours la même histoire. Quand on commence à montrer aux gens comment ils doivent démarrer, après les gens, ils sont pas complètement stupides, ils vont y aller, ils vont finir tout seuls, mais quelquefois c'est vrai que c'est assez opaque la manière de démarrer, donc on leur montrer comment démarrer, comment acquérir des connaissances, et puis après ils vont se débrouiller, puis de temps en temps, ben, on remontera le niveau à chaque fois qu'il faudra. Mais je suis très confiant, parce qu'il y a quand même beaucoup de marins en Guadeloupe, de la manière dont les gens vont aborder le projet.
Et comme on dit sur Thalassa, bon après-midi et bon vent.
Merci Benoît Ferrand, bon vent à vous.
Tous les jours, RFI vous informe en 13 langues.
Говорит Париж. На вашей волне международное французское радио РФИ. В Париже.
Good morning and welcome to this program of news and analysis.
Radio France International, 8 horas de la mañana en París, 6 horas.
对，正在收听的是 RFI 法国国际广播电台。
RFI.
RFI.
Radio France International.
C'est un des monuments de la presse française. Le journal Libération fête ce soir ses 40 ans avec un grand concert à Paris. Miossec et Christophe sont notamment au programme. Yvan Amar revient sur l'histoire de ce journal qui a beaucoup évolué.
Les mots de l'actualité avec le CNDP. Yvan Amar.
40 ans, c'est quand même un bel âge. Eh bien, c'est celui du journal Libération qui devient quadragénaire, si tant est qu'on puisse utiliser ce mot pour autre chose qu'un être humain. Mais enfin, ça fait quand même 40 ans de mue, c'est-à-dire de transformation, avec un journal qui aujourd'hui ne ressemble certainement pas à ce qu'il était à sa naissance, parce que ça a été d'abord un journal radical, d'extrême gauche, souvent violent, souvent excessif, décapant, à l'image de la génération qu'il a portée, et qui a été celle de la jeunesse étudiante de l'après 68. En fait, c'est le seul parmi tous ceux qui sont nés à cette période qui a su résister, survivre et s'imposer comme une référence importante dans la presse française. Il faut dire qu'il a eu une ambition qui, à l'époque, faisait sourire, mais qui était plus vaste que celle de toutes les autres feuilles de choux nées à cette époque. Alors, son nom fait partie du paysage politique et médiatique aujourd'hui, de même que l'abréviation courante Libé, qu'on entend très souvent. J'ai lu dans Libé que j'ai acheté Libé, etc. C'est familier, la plupart du temps c'est positif. Parfois déçu, parfois enthousiaste, ça dépend, mais... En tout cas, ça correspond à une tendance assez fréquente, hein. Naguère, il y a bien plus longtemps, on disait « donnez-moi l'intrant, demandez l'intrant » à propos du journal « L'intransigeant ». Alors, revenons à Libération, c'est un titre bien choisi, c'est vraiment un mot du XXe siècle et même de la deuxième moitié du XXe siècle. Oh, le mot lui-même est beaucoup plus ancien, bien sûr, mais c'est l'un des mots clés du vocabulaire politique progressiste. Bien sûr, il a marqué la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tout au moins en France. Ce qu'on appelle la Libération a signé la fin de l'occupation par les Allemands. Et c'est de la résistance qu'est né justement ce journal Libération, dont on fête les 40 ans. Mais le titre existait bien avant, même s'il a fleuri de façon différente depuis 1973. Le titre avait été déposé auparavant. Alors, Libération, tel qu'on le connaît, c'est un journal post-68art, et l'idée même de Libération, elle est au cœur de cette idéologie 68arde. Parce que le 19e siècle a été nourri de l'idée de liberté qui est plus abstraite, qui est moins dynamique. C'est une affaire de tout ou rien, la liberté. On est libre ou bien on ne l'est pas. On est peu dans le degré. Mais le mot de libération est assez différent parce qu'il évoque un processus, ne serait-ce que par les images qui vont nous amener à ce mot de libération. On peut penser à un tableau ancien, un tableau romantique, celui de Delacroix, avec l'allégorie, c'est-à-dire l'image de la liberté, qui guide le peuple. C'est une femme qui s'avance farouchement et qui n'a pas peur de son sein découvert, et le peuple la suit. Eh bien, c'est cela, la libération. C'est un processus en marche et non un état de fait. Parler de libération, c'est donc reconnaître qu'on n'est pas vraiment libre et que progressivement, on s'en rend compte et qu'on peut le devenir.
Les concerts pour fêter les 40 ans de Libération ce soir à Paris et autre concert, celui d'Ernesto Tito Puentes au New Morning. C'est l'un des plus français des artistes cubains sur scène. Son groupe d'une vingtaine de musiciens pour interpréter les compositions de ce trompettiste de génie. Il a participé dans sa carrière à plus de 200 albums sacrés références et ce titre, Gracias.
Thank you.
Et comme Ernesto Tito Puentes, je vous dis gracias, moi aussi. Merci, merci à Laurent Philippot qui a assuré la réalisation aujourd'hui. Et merci à vous d'écouter chaque jour RFI. Dans une minute, un nouveau journal. Sonia Ghezali vous accompagne.
RFI présente la troisième édition de Périphérique du 14 au 29 décembre, place Toussaint Louverture à Jacmel en Haïti. L'exposition met en scène des photographies, des vidéos, des performances et des installations urbaines. 12 créateurs internationaux et haïtiens à l'honneur avec Périphérique du 14 au 29 décembre en partenariat avec RFI. Plus d'informations sur RFI.fr.
Autour de la question.
Jean-Yves Casga s'interroge avec nous de façon ludique sur l'évolution de notre humanité et sur les mutations en cours dans nos sociétés. Aujourd'hui,
recherche d'avant-garde, thérapies atypiques, mystères du monde, technologies extraordinaires, racines du futur, c'est dans Orbs, l'autre planète.
Autour de la question.
Jean-Yves Casga, Caroline Lachowski.
Du lundi au vendredi, à partir de 15h10 TU.
RFI.
Sponsor Watt. It helps CIUT 89.5 FM replace its transmitter to ensure you get the best quality programming on the FM dial. Go to www.ciut.fm to find out how. CIUT 89.5 FM. The evolution continues.
My friends, 2013 was an incredible year for the Lemon Bucket Orchestra, and we want to celebrate it with you. So, New Year's Eve, we're throwing a huge party at the Opera House. It's going to be our biggest show of the year, featuring special guests all the way from Ukraine, Kulyadnike, and our dearest friends, Toronto's own Samba Elegua. Tickets are only $20 in advance, $30 at the door. Come to lemonbucket.com for more details. Presented in partnership with CIUT 89.5 FM.
Right here, right now, every day. CIUT 89.5, the sound of your city.
Vous écoutez Popourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale.
Écoutez la planète chanter.
Cette chanson, les feuilles mortes, me rappelle à ton souvenir.
Écoutez la planète chanter.
Couleur tropicale.
Oui, c'est Laetitia, c'est Amadou Alassane Sow depuis Port-Gentil, Gabon. J'ai vraiment content sur ton émission. Il me fait plaisir à tout moment. Merci. Je salue tous les frères africains.
Bonjour, c'est Yannou Chou. Je vous appelle depuis le Guinée pour la vraiment pour le fier. Je donne un grand big up. Et je profite de Lucas pour vraiment lancer un appel à la génération consciente de la révolution.
Bonsoir, Claudie. Moi, je réponds devant tout Abdullah, élève en TR1 du lycée Félix Eboué. Je fais big up à tous les élèves du lycée Félix Eboué et toute la famille Marba. Et à tous les Tchadiens et Tchadiennes, Claudie, j'aime votre émission. Merci pour l'Afrique. Ciao.
Bonjour, Couleur Tropicale. C'est Fadio Bachelet. Je vous appelle les parents pour Mali. Je souhaite une bonne chance à toute l'équipe de Couleur Tropicale et surtout bon courage à toute l'équipe. Merci.
Bonjour, Claudie. C'est moi, Amadou. Je vous appelle depuis Lyon. En fait, je suis un grand fan de vous depuis les premières heures. Et je ne raterai pas vos émissions de l'après-midi. Et je voudrais poser une question. Avant, vous avez fait des collections des musiques selon les années, la musique africaine des années 80, 90, 70. Comment avoir ce genre d'émissions encore en podcast ou des trucs de ce genre? Je suis très très fier de ce que vous avez fait et continuez comme ça. Comme on dit, toi-même tu sais. Passez une bonne journée.
Allô Claudie, c'est Ben Pater de la RDC Kinshasa. Toi-même tu sais, nous sommes toujours dans une tristesse. Nous sommes toujours en train de pleurer notre papa, notre cher papa Taboulay. Il nous a beaucoup marqué par sa musique. Alors Claudie, toi-même tu sais, hommage à ces grands hommes, à ces grands hommes. Kinshasa toujours dans les larmes. Toi-même tu sais, le savoir est une arme.
Et toi tu dors encore hein? Tu sais pas que les couleurs tropicales ont commencé déjà? Et toi tu suis quoi?
Couleurs tropicales, Claudie.
Il a mis le feu, il l'a dit. Et après, il a mis le feu.
Toi-même tu, toi-même tu. C'est comme ça que je vous aime.
Couleurs tropicales avec Claudition.
Vous connaissez le numéro du répondeur? Non? 00 33 1 84 22 93 10. Et si vous nous écoutez en France, 01 84 22 93 10. Laissez vos messages, tous vos messages, parlez-nous de musique, que la génération consciente s'exprime, parce que s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. Richard Rifono est toujours à la réalisation. Annabelle Jogamandi, toujours notre assistante. Dans quelques instants, nous allons tous ensemble danser, car les portes de la plus grande discothèque d'Afrique vont s'ouvrir pour vous. Oui, on est prêt, tout le monde est prêt. Non, il faut que tout le monde soit prêt là, faut, parce que là, on y va là, hein, on y va. Allez, là, on y va. Qu'est-ce que je vais faire de ma mobilette, moi? Oh. Et arrêtez de vous moquer de moi, je sais que c'est pas un scooter dernier cri. Ça, c'était la mobilette de mon grand-père. Oh. Hé, petit frère, viens. Garde ma mobilette, ouais, je reviens te voir tout à l'heure. Vas-y, garde ça là-bas. Non, c'est bon, non, on se fait confiance. Les autres, vous me suivez, hein. Allez, allez, suivez-moi, la plus grande discothèque d'Afrique. Les portes vont s'ouvrir, dépêchez-vous, il y a déjà beaucoup de monde. Ouais. Il y a deux DJ là qui vont vraiment faire monter la pression. Ah pardon, on a des invitations, s'il vous plaît. Je m'approche de la porte de la plus grande discothèque d'Afrique. Allez, hé, la famille, restez avec moi là. Allez, entrons. Hé, un. Il y a déjà du monde, hein. Regardez, il y a déjà du monde sur la piste. Alors, deux DJ vont se succéder. Il y aura DJ Coolface, un Togolais au Mali. Et tout de suite, je le vois déjà prêt à envoyer les sessions, à faire monter la pression. DJ Michael, le Malien. Eh hey, mon gars, c'est à toi, on est là.
Let's go.
On est sur la piste. Ah, la plus grande discothèque d'Afrique. Tout le monde les mains en l'air. DJ Michael. Ah, ce n'est qu'à nous revoir. Mais vas-y, on voit le son maintenant, on voit le son. Oh. Hey, les gars sont là. Hey, les potos. Hey, les gars, venez. Venez, on va faire une battle là. Hey, vas-y, DJ Michael, vas-y maintenant, faut laisser monter là maintenant. Monte.
DJ Michael.
Yeah. C'est parti. C'est couleur tropicale.
The remix.
1, 2, 3, come on.
Allez, tout le monde. C'est la plus grande discothèque d'Afrique, estampillée couleur tropicale. DJ Michael, Michael, vas-y.
Ta page nocturne.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler.
Maman
dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa. Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es?
Où t'es papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es. Tout le monde. Il y a tout le monde sur la piste. C'est la plus grande discothèque d'Afrique. Stromae. Aïe.
Musical est phénoménal. Couleur tropicale humide. Danger.
Quoi, qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables, hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Nous où c'est caché, et ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts.
I feel so lucky.
When she come around, she get this feeling where they do me like fever. And when she dance with my man, say, ooh, he dey be me like saying, I'm for fun. Me like how she play the bass line. It makes me sing, ooh, la la la. The way she, the way she that. It makes me sing, ooh, la la la. Oh, yeah. When mommy come back, she a jump. Daddy come to me, a cross. And when they ask me, it was me. That's what me talk say. I don't like this shirt, but your body. What's no say, my mama don't like them. I don't want this shirt, but your body. Waka. But you don't say my papa no like them. Waka. Listen up, follow me. Oh, na 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 na
DJ Michael, DJ Michael, et le Malien. Non, vraiment, ça, tu as mis ça haut. Ah, on a vraiment ambiancé. Hey, petit moment au bar, tranquillement. Attention ici, pas d'alcool. Et le temps de laisser DJ Cool Face, le Togolais du Mali, s'installer. Vas-y, hey mon gars, on est là, t'as vu? Ouais, toute la famille, les beaux, les copains, on est tous là. Le temps qu'il envoie le son. Hey Cool Face, non, vas-y, perds pas de temps, c'est maintenant.
Toi, la façon tu es collé au poste pour écouter Couleur Tropicale, hein, tu fais, on dirait, la radio n'a qu'à rentrer dans ton oreille.
Ça va déchirer.
Couleur Tropicale, Couleur Tropicale, Couleur Tropicale, Couleur Tropicale. Couleur tropicale avec Claudie Ciard. Cool Face is so hot.
Cool Face, vas-y, déchire la piste. Déchire la piste, mon gars. C'est la plus grande discothèque d'Afrique, estampillée Couleur Tropicale. Aïe. Oh, girl, what you do, my baby? I bet you love your man. Say you want to dance, dance. You want to follow money from my band. Oh, yes, gotta be down. But the daddy keep it in town. When you see me around, me just... Oh, yeah, that is it down. Like a dance, like a dance. Oh, the girl, they love the la-la. Oh, the girl, they love the la-la. Oh, the dance, they love the la-la. Aoulou, Crépin, Alomé. C'est de la part de DJ Michael. Keita Gim à Bamako. Charlotte Diomandé en France. Isabelle Ninon, Sénégal. Originale. Légale. Couleur tropicale radio mondiale. Aïe! I'm
avec Claudicia. Cool face is so hot, so hot.
Musical est phénoménal, couleur tropicale, danger.
Janla, mystère dimanche, coco masque. Et mystère Fali, hippopatikap, la mer. Mystère Fali, hippopatikap, la mer.
Gauche, t'es beau pour le bout de Paris. Soit t'es l'un ou soit t'es l'autre. T'es un homme ou bien
couleur
péri.
Couleur tropicale.
Ou pas péticienne. Féministe ou la
couleur
ferme
tropicale.
Soit t'es macho ou soit homo. Mais t'es phobe ou sexuel. Mécréant ou terroriste. T'es flush ou bien t'es barbu. Conspirationniste, illuminati. Mythomaniste ou vendu. Rien du tout ou tout tout de suite. Du tout au tout indécis. Hein, tu changes d'avis imbécile. Mais t'es où tout tout de suite. Flamand ou wallon, bras ballant ou bras long. Finalement t'es raciste, mais t'es blanc ou bien t'es marron.
Ta pas je n'en plus.
Bâtard tu es. Tu l'étais, tu le restes.
What's up, girl? What's
cool up? Face is so hot. So hot.
D'Afrique. Ce soir encore, on a bien déchiré et tête aux platines. DJ Michael du Mali et DJ Coolface, un Togolais au Mali. Rendez-vous vendredi prochain pour d'autres sessions, pour d'autres montées en pression. En attendant, on se retrouve lundi pour Couleur Tropicale. Bon week-end.
Ça y est, il a cassé le moteur, c'est fini.
The sound of your city. Right here, right now, every day. CIUT 89.5, Toronto.
L'une des 500 radios partenaires de RFI dans le monde.
Vous écoutez Popourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale.
Entrez.
Ferruletti Bar.
Pour me chanter une petite chanson pour pour moi exprimer l'amour moi n'a pas. Maman m'y connaît très bien moi les enfants. N'y essaie de trouver le mot même si m'y casse mon coco. L'amour que moi n'ai avec mon parent, il est tellement grand que mes refs dansent toutes les mamans. Maman quand tu roules c'est gars maman
roule, roule.
Maman m'y est maman, maman pas ou même la plus jolie. Maman quand tu tournes c'est gars maman
tourne, tourne maman.
Maman m'y est maman, maman c'est où l'offre de ma vie. Maman quand tu roules c'est gars maman
roule, roule.
Maman m'y est maman, maman pas ou même la plus jolie. Maman quand tu tournes c'est gars maman
tourne, tourne maman.
Maman m'y est maman, maman de ma vie.
Faut pas confondre pauvre la saleté. Pauvre dis à la saleté.
Nous pouvons bien être pauvres Afrique, mais être vraiment pauvres. Mais être vraiment pauvres.
Un exemple de toile.
Cela fait vraiment pitié. Des tuyaux creusés en désordre partout.
En désordre partout.
Oui, côte à côte, je vous le dis. Des WC traditionnels.
Des WC traditionnels.
Des rigoles sans canalisation. Produisant des microbes. À gogo vraiment partout.
À gogo vraiment partout.
Facteur de nombreuses maladies.
Facteur de nombreuses maladies. Afrique, Afrique, réveille-toi. Afrique, 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 réveille-toi. Afrique, Afrique, réveille-toi. Afrique, 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 réveille-toi.
Ah oui, je t'aime Afrique. Tes contours sont envahis. Des marais de
des marais de moto,
des passages piétonniers sont devenus des stations à taxi, un peu partout, un peu partout. Ta population a pris d'assaut les rues de tes quartiers,
les rues de tes quartiers.
Parce que les trottoirs n'existent vraiment plus. Les camions de Touja, garés pêle-mêle, n'importe où,
n'importe où.
Des citoyens de passé du calvaire ne savent plus quoi faire,
ne savent plus quoi faire.
Oui, oh, c'est ça.
Afrique, Afrique, réveille-toi. Afrique, 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 réveille-toi. Afrique, Afrique, réveille-toi. De tout mon cœur.
Il est temps, Afrique, de mettre fin
à ces situations, à ces situations.
Dieu nous a donné une terre fertile. Pourquoi, Afrique, sommes-nous devenus capitale de la faim mondiale?
Capitale de la faim mondiale.
C'est parce que je t'aime, Afrique. Que je te dis ces vérités, c'est parce que je t'aime Afrique.
Que je te dis ces vérités.
Il est temps de choisir Afrique dans la démocratie. Ceux qui doivent te diriger,
ceux qui doivent te diriger.
DJ Madara. chantons les louanges. Imitons les anges.
DJ Madara.
Voici la couronne d'embauche.
Voici la couronne d'embauche.
Voici la couronne d'embauche.
Madara.
Bye.
Madara.
Canal, man, vraiment payé. J'ai dormi dans le canal.